Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce deuxième dimanche après Pâques est communément appelé le dimanche du bon pasteur, en raison de l'Évangile, où notre Seigneur Jésus-Christ affirme être le bon pasteur. « Je suis le bon pasteur, dit-il. Je connais mes brebis et je donne ma vie pour mes brebis. » Et nous allons suivre un petit peu le commentaire que donne Saint Grégoire le Grand, le pape, sur cet évangile. Il donne 6 qualités au bon pasteur. Tout d'abord, connaître ses brebis. Non pas seulement et uniquement, ça serait tout à fait insuffisant, par le nombre. Vous voyez comme David, après toutes ces guerres, a voulu, et en temps de paix, a voulu dénombrer la quantité de soldats qu'il avait. Il est arrivé à un nombre très grand. Mais le prophète lui avait dit, tu fais erreur, et tu fais même un grand péché de dénombrer tes ouailles, tes brebis, tes hommes en armes, capables d'affronter l'extérieur, les païens, les ennemis de tous côtés. Et David a voulu compter cette population par orgueil. Et le bon Dieu l'a châtié. Rappelez-vous ce que nous avons dit cet été lorsque nous avons commenté durant de longs dimanches les différentes étapes de la vie de David. Le bon Dieu l'a grandement châtié. Donc il ne faut pas compter le monde qu'on peut avoir à sa suite. Mais ce n'est pas cela, connaître ses brebis. C'est bien supérieur à cela. C'est connaître l'âme, le caractère, les qualités, les défauts, les besoins de ses brebis. Et Jésus est le bon pasteur, il connaît intérieurement le fond de nos âmes. On dit bien dans la Sainte Écriture que Dieu sonde les reins et les cœurs. Non pas donc à la superficie, à ce qu'on voit, l'extérieur, mais l'intérieur des âmes. Voilà donc la première qualité du pasteur, du bon pasteur, connaître ses brebis. Non pas quantitativement, mais qualitativement. L'âme, l'intérieur de l'âme. Deuxième qualité du bon pasteur, c'est guider ses brebis. De peur qu'elles ne s'égarent, ne se perdent. Notre Seigneur Jésus-Christ a montré cette grande qualité. Il a guidé par sa parole et surtout par l'exemple de sa vie. Personne ne pouvait attaquer notre Seigneur Jésus-Christ sur sa doctrine, qui, disait-il, n'est pas la mienne, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. Et puis, il a guidé, façon tout à fait certaine, les brebis qui sont venues à lui ou qu'il a cherchées. Il les appelle, il court après celles qui s'éloignent du bercail. Témoignez cette belle parabole du bon pasteur, justement, qui va quitter momentanément les brebis qui sont dans le bercail pour chercher la brebis perdue. Et les catacombes à Rome nous montrent à l'envi, par ces images, ce catéchisme en images déjà, le bon pasteur, donc ce jeune homme qui a la brebis sur ses épaules. Donc dès l'Antiquité chrétienne, on voit comment les chrétiens, les catholiques de Rome ont voulu manifester cette qualité de charité, de bonté pour cette brebis qui était perdue, qui ne peut plus marcher. Il guide la brebis. Et Jésus nous appelle par ses grâces, ses avertissements intérieurs, extérieurs. Donc le prêtre, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, doit guider ses brebis. Il marche devant le bon pasteur. Troisième qualité, il marche devant. C'est un chef. Le chef est toujours devant ceux qu'il mène. Notre Seigneur Jésus-Christ stigmatise l'attitude des pharisiens qui disent et ne font pas. Donc ils ne montrent pas le bon chemin. Ils ne marchent pas devant les fidèles qu'ils devraient mener. Et bien sûr, en marchant devant les brebis, le bon pasteur montre le droit chemin, le bon chemin. La quatrième qualité du bon pasteur, c'est de garder, de défendre les brebis qu'il a à sa garde. Donc il veille nuit et jour sur le troupeau. C'est-à-dire qu'il prie. Le bon pasteur prie pour ses brebis, pour ses fidèles, afin de les écarter des bêtes féroces et des voleurs. Garder, défendre les brebis, c'est-à-dire aussi les avertir des écueils, du péché dans lesquels elles peuvent tomber. Nourrir ces brebis, c'est l'avant-dernière qualité du bon pasteur, il les nourrit, comme notre Seigneur Jésus-Christ a fait, en donnant aux brebis de bons pâturages. Mais qu'est-ce que c'est ce bon pâturage, sinon la bonne doctrine, la vraie doctrine? Et nous nous appuyons sur les enseignements des pères de l'Église, des docteurs, des saints qui ont enseigné. Le docteur enseigne les fidèles avec de bons ouvrages. Et bien sûr, après cette nourriture intellectuelle, spirituelle, il y a essentiellement la nourriture eucharistique. Notre Seigneur l'a bien dit, mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Donc cette nourriture est nécessaire pour la sustentation des âmes. Et enfin, ça c'est le couronnement du bon pasteur, il donne sa vie pour cette brebis. Le mercenaire, au contraire, fuit le danger. C'est l'évangile en Saint Jean chapitre 10 aujourd'hui. Le mercenaire voit-il le loup arriver, il s'enfuit, il laisse les brebis. Il a comme devise « courage, fuyons ». Ça, ce n'est pas une devise. C'est une contre-devise. Le mercenaire fait cela. Le bon pasteur, au contraire, s'expose au danger pour ses brebis. Il est prêt à mourir pour elles. Et l'exemple, eh bien, c'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en nourriture et le lendemain, le vendredi saint, il a donné sa vie pour les brebis errantes que nous étions afin de nous racheter, de nous sauver. Autrefois, les évêques écrivaient des lettres pastorales. Vous connaissez certainement, et je vous conseille, si vous ne l'avez pas, une grande lettre pastorale du monsieur de Castromaillère, écrite en 1953 à ses fidèles de Campos au Brésil. Je voudrais vous lire quelques passages. Donc c'est un livre assez gros quand même, de 115 pages, parce qu'il n'y a pas qu'une lettre qu'il a écrite aux fidèles, mais aussi un catalogue des vérités attaquées au XXe siècle, et la réponse, un peu comme un syllabus, ce n'est pas le pape qui écrit, c'est un évêque diocésain, qui écrit pour ses fidèles, pour mettre en garde contre les erreurs modernes et la réponse à donner à ces erreurs. Donc, il nourrit bien ses fidèles. Donc, quelques petits extraits, vous laissant la joie de lire ou de relire ces belles pages que cet évêque de Campos au Brésil adressait à ses fidèles, pas seulement à ses prêtres, mais à ses fidèles. Il importe, disait-il, au plus haut degré, de lancer, unis et disciplinés, toutes les forces catholiques, toute l'armée pacifique du Christ roi, à la conquête des peuples qui gémissent dans les ombres de la mort, leurrés par l'hérésie ou par le schisme, par les superstitions du paganisme antique ou par les multiples idoles du néopaganisme moderne. Pour que cette offensive générale, tant désirée par les souverains pontifes, soit efficace et victorieuse, il convient que les propres forces catholiques demeurent pures des erreurs qu'elles doivent combattre. Donc, on voit le bon pasteur qui prémunit des erreurs les fidèles par la vérité, l'enseignement de la vérité. La préservation de la foi parmi les fils de l'Église est donc une mesure nécessaire et souveraine pour l'éternisation du règne du Christ sur la terre. Cette belle lettre est vraiment à la gloire du Christ roi, le règne du Christ, intronisé, le Christ qui est détrôné sur cette terre, dans les âmes. Vraiment, mes frères et chers frères, je vous conseille de lire, de méditer ces mots très simples de cet évêque qui était fort. Et lorsque les sacres de 88 ont eu lieu, Monseigneur de Castromaillère était bien fatigué, bien malade. Et je me rappelle, dans la chapelle du séminaire, quelques jours avant les sacres, il a fait un discours en portugais, traduit immédiatement, bien sûr, et sous nos yeux. Il a dit ceci. Lorsque la foi est attaquée, il faut la défendre. Il a cité saint Thomas d'Aquin, disant que s'il n'était pas venu à Écône pour les sacres de 88, n'oubliez pas, il est âgé, malade, très chétif, il aurait fait un péché mortel. Parce que saint Thomas d'Aquin enseigne que quand la foi est attaquée et qu'on ne défend pas publiquement, on pêche par défaut et un péché mortel. Et donc, ils avaient vraiment, on était, nous séminaristes à l'époque, nous étions émerveillés par cette attitude de cet évêque si âgé qui a fait un voyage incroyable, Brésil-Suisse, aller-retour. Il était extrêmement faible. Il est venu pour affirmer sa foi. Nous disons bien, s'il n'était pas venu, j'aurais manqué gravement à ma fonction d'évêque. J'aurais fait un péché mortel. Parce que la foi a été attaquée publiquement, partout, par l'œcuménisme ambiant, le relativisme, l'apostasie aussi. Monseigneur Lefebvre a bien dit que Jean-Paul II, ayant été en 86, en octobre 86, à Assise, à cette foire des religions, avait fait un grave péché contre le premier commandement de Dieu. Et c'est cela, c'est essentiellement cet acte de Jean-Paul II qui avait poussé Mgr Lefebvre à sacrer des évêques. L'apostasie publique du pape. Donc voilà la réponse, voyez, un bon pasteur qui est allé même au-delà de ses forces physiques pour manifester publiquement la foi au monde entier. Au monde entier. Et comme deux vaillants combattants, ces deux évêques sont morts à un mois d'écart. Mgr Lefebvre, 25 mars 91, Mgr Costamayer, 25 avril 91. Et comme le disait bien Mgr Lefebvre, il n'est pas question de demander quoi que ce soit à Rome pour sacrer de nouveaux évêques. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en juillet de la même année, puisque les jeunes évêques à l'époque de la Fraternité Saint-Pédis se sont rendus à Campos pour sacrer un successeur de Mgr Costamayer. En juillet 91, ils n'ont rien demandé à Rome, rien demandé. Le consécrateur était Mgr Tissé de Madré, et les deux co-consécrateurs, puisqu'il y avait trois évêques, il y avait même quatre, mais trois étaient suffisants pour cette cérémonie. Mgr Williamson, deuxième consécrateur, Mgr de Galarreta, troisième consécrateur. Ils n'ont rien demandé à Rome. 38 ans plus tard, la fraternité demande à Rome. Lorsque Mgr Williamson a sacré les six évêques, il n'a pas demandé à Rome. Il a suivi l'exemple de Mgr Lefebvre, qui n'a plus demandé à Rome en 88, Mgr Tissé de Madré, qui n'a pas demandé à Rome trois ans plus tard, en 91, et il a suivi l'exemple. Et 38 ans plus tard, la fraternité demande à Rome. Ce n'est pas l'attitude que Mgr Lefebvre avait. Rome n'a pas changé. C'est même pire encore. Il y a quelques jours, le pape Léon XIV était en Algérie. Il s'est déchaussé pour aller à la mosquée. Benoît l'a fait. Jean-Paul II l'a fait. Même chose. Même attitude. On n'a rien à demander à Rome de nos jours. Il faut avancer sans sourciller. C'est une calamité de voir ces avanies. Et nous sommes dirigés, hélas, par de mauvais pasteurs, de mercenaires, qui ne prennent pas soin des brebis qui leur sont confiées. Alors il faut suivre l'exemple magnifique, les exemples de Mgr Lefebvre, Mgr Costamayer, Mgr Williamson, qui ont montré l'exemple dans des temps où il faut être héroïque dans sa foi, dans la manifestation de sa foi. C'est très important. Eh bien, chers frères, demandons au bon Dieu que les pasteurs soient de bons pasteurs et pas des mercenaires qui œuvrent pour leur bien propre et le mal dans la Sainte Église. Hélas, c'est ce que nous voyons. Demandons bien sûr à Notre-Dame, la mère des prêtres, la mère du grand prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, la mère de tous les prêtres, la mère des évêques, la mère des fidèles, de donner au pasteur et au futur pasteur aussi, car nous prions pour les vocations ce dimanche du bon pasteur, qu'elle donne, qu'elle suscite ce désir de poursuivre cette mission pour le salut des âmes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.